Alors, le fait que l'avortement heurte tout le monde est démontré par le fait que l'avortement fait deux victimes. D'abord, évidemment, l'enfant innocent, le fœtus, l'embryon, qui est éliminé. Et deuxièmement, on se rend compte de plus en plus, et il y a des femmes très courageuses qui se lèvent maintenant pour dire qu'elles aussi, qui ont subi un avortement, ont été la deuxième victime de l'avortement. Et on se rend compte que elles souffrent par la suite, beaucoup en tout cas, peut-être pas toutes, mais beaucoup de femmes qui ont subi un avortement développent des symptômes physiques, psychologiques, elles souffrent, elles sont blessées, et elles ne savent pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, la dépression, tentative de suicide, etc. Et ça s'appelle le syndrome post-avortement. Alors, de dire que l'avortement heurte tout le monde, c'est dans ce sens-là. Et on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de pères qui sont affectés, des hommes qui, par la suite, souffrent aussi de cette absence d'un enfant qu'ils auraient pu avoir avec une femme. Les grands-parents aussi, quand ils deviennent conscients de tout cela. Et on est en train de découvrir un autre syndrome qui s'appelle le syndrome du survivant, qui fait que les enfants... Les frères et sœurs de l'enfant avorté, une fois qu'ils réalisent qu'eux ont survécu, se disent « mais pourquoi moi ?» Et certains se sentent coupables d'exister.
Est-ce que l'avortement bénéficie d'un cadre, on va dire, législatif, juridique au Canada ?
Au Canada, depuis 1988, ça a été la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Morgenthaler. Il n'y a plus aucun encadrement juridique, aucune loi qui interdit l'avortement au Canada. Il y a, comme je vous dis, il y a un vide juridique qui permet environ 100 000 avortements par année, c'est-à-dire une grossesse sur quatre. Ce qui est encourageant, par ailleurs, c'est qu'on se rend compte que quand les gens sont mis au courant du vide juridique et réalisent qu'on peut se faire avorter jusqu'à la toute veille de l'accouchement, les gens sont horrifiés et disent mais il devrait y avoir certaines limites. Il y a actuellement, entre autres, à la Chambre des communes, une motion qui a été déposée pour faire reconnaître l'humanité du fœtus, parce que notre code criminel établit à l'heure actuelle qu'on est humain seulement une fois complètement sorti de l'utérus de sa mère. Avant ça, on n'est pas humain selon le code criminel canadien. Alors, le député Woodworth affirme qu'il serait peut-être temps qu'on regarde les avancées de la science et qu'on se mette à jour.
L'épiscopat canadien est de plus en plus impliqué dans cette cause, donc pro-vie. Qu'en est-il des catholiques dans votre pays? Qu'en est-il de la société canadienne en général?
Vous faites bien de mentionner l'implication des évêques canadiens parce qu'effectivement, de plus en plus d'entre eux participent à la marche. Et vous êtes peut-être au courant qu'en octobre dernier, la conférence des évêques catholiques du Canada a adopté une initiative pastorale nationale pour la vie et la famille. Et dans cette initiative-là, évidemment, il y a une promotion de la vie et un encouragement à participer à ce genre d'activité qu'est la marche. Maintenant, du côté de la société canadienne, dans l'esprit de la plupart des gens, c'est réglé, l'avortement, c'est un droit et ben c'est tout. Et puis du côté des catholiques, je vous dirais qu'il y a une minorité de catholiques qui est vraiment engagée pour combattre l'avortement, pour la promotion de la vie. Beaucoup de catholiques réalisent qu'il y a quelque chose là qui ne va pas, mais ne sont pas ne se lèvent pas pour défendre la vie comme peut-être ils devraient.
Pourquoi, selon vous?
Je crois qu'il manque d'informations, premièrement. Beaucoup ne sont même pas... Je vous mentionnais le vide juridique tout à l'heure. Beaucoup de catholiques ne sont pas au courant du vide juridique. Mais comme je vous mentionnais aussi, le fameux plan des évêques, l'initiative pour la vie et la famille, je crois, va permettre de provoquer un réveil chez les catholiques et j'espère de les faire lever pour essayer d'obtenir au plan politique des lois qui vont défendre la vie, qui vont défendre la vie de l'enfant à naître. D'ailleurs, c'est l'objectif aussi de notre nouvelle brochure, parce qu'à l'occasion de la Marche pour la vie cette année, notre organisme publie une nouvelle brochure qui a pour titre « L'enfant à naître, un cadeau, un trésor, une promesse ». Et c'est une réflexion sur l'avortement, justement, dans laquelle on explique la situation, dans laquelle on encourage les gens à soutenir les femmes enceintes en difficulté, et aussi quand elles auront accouché, avant l'accouchement, après l'accouchement. Et on réclame là-dedans un changement au niveau politique parce qu'on ne peut pas ne pas reconnaître l'humanité de l'enfant à naître et son droit à la vie. C'est le premier des droits fondamentaux. Et c'est sûr que quand on ne reconnaît pas le premier des droits fondamentaux, quand on continue à tolérer la destruction des membres les plus faibles d'une société, c'est sûr qu'on va inévitablement en venir à vouloir détruire les relativement faibles. Je parle des personnes handicapées, les malades, les personnes marginales. Et on voit qu'au Québec, entre autres, dans la province de Québec, à l'heure actuelle, il y a une tentative pour... on ne peut pas légaliser l'euthanasie parce que c'est de compétence fédérale, mais on est en train de vouloir contourner la loi pour en faire un soin médical acceptable dans certaines situations. Alors, on voit que la mentalité qui va avec la culture de la mort passe de la question de l'avortement à la fin de la vie.
Au final, quel est le sens de cette marche pour la vie? Est-ce qu'il s'agit d'un geste plutôt symbolique? Est-ce qu'il s'agit pour vous d'acquérir un peu plus de visibilité? Ou est-ce qu'il s'agit d'un appel à une véritable mobilisation politique?
C'est certainement un geste à la fois symbolique et avec une visée de faire lever les gens, de les mobiliser. Et ce qui est encourageant, c'est de voir que non seulement il y a de plus en plus de monde à cette marche. L'année dernière, il y avait 15 000 personnes. On est parti de 3 000, 4 000 il y a quelques années. Alors, tranquillement, le nombre de participants augmente. Et ce qui est fort intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes. Il y a énormément de jeunes, des étudiants qui participent à la marche et de jeunes familles aussi avec leurs enfants. Alors, je crois que la génération qu'on appelle la génération Jean-Paul II est au rendez-vous. Et c'est très encourageant. Et il y a une éducation, c'est sûr, à faire pour les rendre conscients de comment, au plan politique, ils peuvent interpeller leurs élus pour obtenir une loi qui commence au moins à protéger l'enfant à naître. Depuis à peu près un an, je vous dirais, il y a des groupes de plus en plus nombreux qui s'organisent pour réclamer un débat, un nouveau débat social sur la question de l'avortement. Ce sont des éléments encourageants. Souhaitons que ça donne des fruits.